enseigne-moi.com.
Enseigne-moi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseigne-moi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseigne-moi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Depuis quelques semaines, nous nous agenouillons, si je peux m'exprimer ainsi, à côté de Daniel, un homme de Dieu, qui se retrouve, on se retrouve à côté de lui dans l'évangile, dans Daniel chapitre 9 et 10, à un moment de sa vie où il avait besoin d'être renouvelé dans son onction. C'est un homme qui a connu Dieu, mais qui est un homme qui a connu les richesses de l'Esprit de Dieu, mais qui a se retrouvé dans ce moment où l'expression de son cœur et toute la soif spirituelle qu'il avait et le besoin d'être renouvelé surnaturellement est capsulé dans ses mots, dans le chapitre 10, les versets 17 et 18, où il s'adresse à Dieu et avec une transparence magnifique, avec une sensibilité, une ouverture, une transparence magnifique, il dit au Seigneur, « Comment pourrais-je même trouver la force de parler à mon Seigneur? Maintenant, aucune force ne subsiste en moi. Le souffle me manque. » Et Daniel témoigne qu'alors qu'il a fait cette confession devant Dieu, reconnu son besoin d'être renouvelé, celui qui avait l'aspect du Fils de l'homme me toucha de nouveau. Il m'a renouvelé et il me fortifia. Daniel a tellement besoin d'être touché par Dieu, tellement besoin d'être rafraîchi, d'être renouvelé par Dieu, qu'il dira ces mots, Seigneur, je me retrouve dans un moment où c'est comme si j'ai pas de souffle en moi. Je manque de force, je suis essoufflé. Un peu plus tard dans le chapitre, il dira, mon cœur est rempli de frayeur. J'ai peur face à ce qui m'attend. J'ai des appréhensions, des inquiétudes face à tout ce qu'il y a autour de moi. C'est comme si spirituellement, je suis au bout de mes forces à moi et je sais même pas comment parler à Dieu. Je sais même pas comment m'adresser à toi. Je sais même pas comment t'exprimer mon besoin. J'ai besoin d'être renouvelé par toi. Et j'aimerais dire que ce cœur qui a besoin d'être renouvelé par Dieu, eh bien, il bat dans ce lieu ce matin dans la vie de plusieurs. Beaucoup d'entre vous savez qu'est-ce que Daniel vit parce que vous êtes dedans en ce moment. Vous aimez Dieu, vous voulez le servir et vous avez l'intention d'avancer avec lui, mais il y a cet essoufflement ou cette fatigue ou ces épreuves qui sont venues ou cet obstacle, cette tragédie, peut-être même juste cette fatigue à force de bien travailler, des années à vouloir et à servir Dieu. Il y a un essoufflement qui est là. Ce cœur bat dans ce lieu ce matin. Ce cri silencieux qui était dans le cœur de Daniel monte aussi du cœur de plusieurs dans ce lieu qui vont écouter ce message par Internet ou par radio. Du cœur de plusieurs, ce cri silencieux monte vers Dieu. Et je veux déclarer par la foi que celui qui a l'apparence du Fils de l'homme, eh bien, il marche les allées de cette église ce matin. Il connaît tout de vous. Il vous aime et ses bras sont tendus. Et encore en 2007, il est possible pour nous de dire, celui qui avait l'apparence du Fils de l'homme est venu me toucher et il m'a renouvelé et il m'a rafraîchi et il m'a donné des forces afin de continuer avec mon Dieu. Quelqu'un devrait dire Amen. Daniel nous apprend littéralement dans ces chapitres comment renouveler l'onction de Dieu sur nos vies. Et tous les messages sont disponibles, les notes et les CD sont disponibles. Il y a un rappel surnaturel qui renouvelle l'onction dans nos vies. Nous avons étudié qu'il y a une reconnaissance sincère qui renouvelle l'onction dans nos vies. Et il y a aussi un refus et une résistance spirituelle qui renouvelle l'onction dans nos vies. En d'autres mots, il y a des choses que je dois recevoir, je suis restauré et je suis renouvelé lorsque je reçois certaines choses de la part du ciel. Lorsque je recherche des choses de la part du ciel, lorsque je recherche Dieu, lorsque je reçois la bénédiction, l'onction, le déversement de la présence de Dieu, de la parole de Dieu, des bontés de Dieu. Mais il y a aussi une dimension pour ceux qui veulent apprendre à rester renouvelés, à être frais, à porter du fruit, à vivre l'onction fraîche. Une dimension où, oui, je suis renouvelé lorsque je recherche, lorsque je reçois, mais je suis aussi renouvelé lorsque je refuse, lorsque je défends, lorsque je protège l'onction de Dieu qui est sur ma vie, lorsque il y a des choses que je dois refuser et ces divins refus, cette résistance spirituelle ouvre la porte du ciel et me permet d'être renouvelé. Nous avons découvert ensemble et étudié ensemble, et je veux simplement revenir à cet endroit-là ce matin, que je suis renouvelé dans mon onction lorsque je refuse et résiste à une vie chrétienne limitée par l'expérience des autres. C'est une des grandes clés de la vie de Daniel. C'est que la Bible nous dit de Daniel qu'il y avait sur lui un esprit différent, qu'il y avait en lui un esprit supérieur. Il se distinguait de tous les autres, parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur, yatir dans l'hébreu, un esprit au-dessus de. Et ce n'est pas une dimension humaine, c'est pas, il n'y a aucune prétention ou arrogance de dire, moi, j'ai l'esprit meilleur que le tien, je suis au-dessus de toi. Et c'est pas un esprit supérieur dans quelques capacités humaines de le produire. Lorsqu'on parle d'un esprit supérieur, on parle de l'esprit de Dieu, des caractéristiques du fruit de Dieu. Jésus a dit que l'esprit de Christ, revêtez-vous des pensées de Christ. Il a dit que ce qui arriverait à un croyant qui est le temple de l'esprit et l'habit, l'esprit de Dieu vit en lui, que les caractéristiques de l'Esprit de Dieu et les caractéristiques de Christ lui-même rempliraient sa vie, que j'ai accès maintenant à un esprit supérieur, que je refuse d'être soumis, je refuse d'être limité, je refuse d'être dans le lot, je refuse simplement suivre le troupeau. Qu'alors que autour de moi il y a un esprit ou un cœur de rancune chez tellement, je cherche un cœur de pardon. Quelqu'un devrait dire amen. Alors qu'il y a l'esprit supérieur, c'est un esprit qui, là où il y a cynisme et moquerie et doute et méfiance, moi je suis rempli d'un esprit qui croit, qui ose, qui aime, qui bâtit les gens au lieu de les détruire. Lorsque je suis rempli, entouré d'un esprit qui est égoïste, égocentrique, qui veut prendre, l'Esprit de Dieu en moi me donne un esprit supérieur. Je refuse d'être sous cet esprit de petitesse et d'égocentrisme qui vit pour soi-même. Je veux être rempli de l'Esprit de Christ. C'est un esprit supérieur qui fait que des gens prennent une portion de leurs vacances en plein été, dans la canicule, pour aller peinturer les appartements, pour aller refaire un endroit afin que des garçons qui n'avaient rien puissent avoir quelque chose de mieux. Quelqu'un va dire amen. Un esprit supérieur, un esprit qui, alors qu'autour de moi, alors que je suis confronté avec cette dimension de mépris ou d'abaisser, c'est un esprit qui le refuse. Un esprit qui refuse toute forme de préjudice, toute forme de racisme, toute forme d'abaisser une personne ou une autre à entourer. C'est partout autour de nous, mais l'esprit supérieur est un esprit qui est rempli d'une conviction que chaque être humain est égal dans sa valeur devant Dieu. C'est un esprit qui, entouré de gens qui abandonnent, qui lâchent, qui sauvent, qui vivent pour eux-mêmes et qui laissent, dont la parole ne veut pas dire grand-chose, dont les engagements sont rompus par-dessus rompus, c'est un esprit qui dit, moi, j'ai donné une parole, j'ai un engagement, j'ai pris quelque chose devant Dieu, j'ai pas en moi-même la capacité d'être fidèle. Je lisais tard hier soir, je lisais le psaume, le psalmiste qui dit, Seigneur, à l'aide, Seigneur, il semble que les hommes fidèles disparaissent. Et moi, je dis, Seigneur, il y a dans ce lieu des hommes et des femmes. Nous refusons d'être amenés vers le bas et d'avoir les chaînes aux pieds, le boulet aux pieds, puis d'être creusés dans la boue jusqu'aux oreilles et d'être au niveau de tous. On veut pas mépriser qui que ce soit ou s'élever au-dessus de qui que ce soit, mais nous refusons cet esprit autour de nous. Tu as un esprit supérieur pour nous. Je refuse et je dirais même ceci, même dans le monde chrétien, même dans la foi chrétienne, je vais m'adresser à tous ceux qui ont un rêve pour Dieu, une vision pour Dieu, qui veulent servir Dieu. C'est impossible de bâtir quoi que ce soit dans la francophonie, à moins que tout en respectant et honorant tout le monde, tu te lèves chaque matin en refusant de laisser la limite de la vision des gens qui t'entourent devenir tienne. Il y a quelque chose de significatif lorsque Daniel a dit, Daniel 17:8, je restais seul et j'ai vu cette grande vision, mais les hommes qui étaient avec moi ne virent pas la vision. Encore une fois, c'est pas un cœur prétentieux, c'est un cœur qui poursuit. C'est pas un cœur arrogant, c'est un cœur assoiffé. C'est pas un cœur qui compare ou se compare, c'est un cœur qui a une conviction. Ce n'est pas un cœur qui est soumis à l'incrédulité ambiante, c'est un cœur qui est animé d'un esprit supérieur. C'est-à-dire, Seigneur Dieu, tu mets en moi une vision différente. Ça ne veut pas dire que je vais juger qui que ce soit ou je m'élève au-dessus de qui que ce soit, mais à moins qu'il y ait une nouvelle génération d'hommes et de femmes et d'ouvriers et d'églises et de ministères et d'évangélistes et d'enseignants et d'apôtres et d'artistes chrétiens qui s'élèvent avec grand respect et honneur pour tout ce qui a été fait, mais en même temps avec quelque chose de farouche dans leur esprit qui dit aux hommes, ça a peut-être été impossible jusqu'à maintenant, mais à mon Dieu, rien n'est impossible. Seigneur, tu me donnes une vision, peut-être que d'autres ont pris la fuite et se sont cachés, mais tu m'as donné cette vision et je refuse de laisser l'incrédulité et la petitesse qui a précédé déterminer qui je vais être. Je ne vais pas me comparer à personne, mais je vais accomplir tout ce que Dieu a pour moi. Quelqu'un devrait dire amen avant que j'explose ce matin et applaudir tout ce que Dieu peut faire avec des gens qui refusent. Il y a beaucoup d'endroits dans la parole de Dieu. Daniel est animé de cet esprit-là. Il y a plusieurs personnages de la parole de Dieu. Mais il y en a une, il y a une dame dans les évangiles qui m'émerveille. À chaque fois que je traverse les évangiles et que je la vois au pied du Seigneur, je veux me mettre à genoux à côté d'elle et dire, moi, je veux son cœur, Seigneur. Parce que cette dame refusait de laisser les voix autour d'elle, de laisser l'incrédulité, de laisser la petitesse et les conventions, refusait à tout ça de lui dire, ce que tu veux est impossible, ce que tu as à cœur est impossible, ce que tu vois est impossible, ce que tu désires ne pourra pas se réaliser. La Bible nous dit qu'elle venait de Tyr et de Sidon, et elle est dans l'évangile de Matthieu 15, 21-28. Et elle venait et se jetait aux pieds du Seigneur. Et elle disait, pitié de moi, Seigneur, fils de David, ma fille est cruellement tourmentée. Il ne lui répondit pas un mot. Et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec insistance, renvoie-la, car elle crie derrière nous. Et vous pouvez être certain qu'à chaque fois que vous allez vouloir aller obtenir et pousser, obtenir quelque chose de la part de Dieu, il y aura toujours des voix pour vous dire que c'est pas possible. Quelqu'un aurait dû dire, amen, c'est vraiment bon, qu'est-ce que je prêche en ce moment? Je vais continuer un petit bout tout seul, là, mais j'ai hâte que vous venez me rejoindre. Non, laisse-la mettre tranquille. Et même Jésus dira à cette dame, il y a des temps de Dieu, il y a une révélation. Je ne vais pas prêcher tout le message de ce moment, mais simplement, Jésus dit, je n'ai pas été envoyé aux brebis perdues de la maison d'Israël. Et Jésus annonçait qu'il venait pour les Juifs en premier. Elle, c'est une non-juive qui vient de Tyr et de Sidon. Et il annonçait simplement qu'il venait pour les Juifs en premier, qu'à travers les Juifs, l'Évangile était pour aller aux non-Juifs partout à travers le monde et à travers la planète et toutes les nations sous le nom du Seigneur. Mais il répondit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Mais elle vint se prosterner devant lui en disant, Seigneur, secours-moi. J'aime cette femme. C'est le genre de femme que l'expression « non, ça ne sera pas possible » ne fait pas partie de son vocabulaire. Comment est-ce qu'une mari qui sont mariés à une épouse comme ça? Vous comprenez de quoi on parle? Les gars ont peur même de le dire ou de l'avouer. Il y a quelque chose de tellement beau. Elle a toujours ce cœur. Elle ne sera pas limitée. Elle a une vision. Il y a quelque chose qu'elle a vu et Dieu, tu peux, Jésus, tu peux amener la guérison à ma maison, tu vas toucher ma fille. Les disciples disent non et le Seigneur lui dit, ah non, c'est pas pour en ce moment, c'est pas pour les non-juifs en premier, je vais faire les juifs en premier puis par la suite on va aller vers le peuple. Mais il lui dit, envoyé aux brebis perdues d'Israël, elle vient se prosterner devant lui, c'est comme si elle le bloque. Elle se jette à ses pieds et elle dit, Seigneur, secours-moi. Et Jésus lui répond quelque chose de particulier, il dit, au verset 26, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter au petit chien. C'est une expression des Juifs de l'époque d'appeler les non-Juifs des chiens. C'est un mot grec qui est à plusieurs endroits dans le Nouveau Testament. C'était péjoratif. À plusieurs endroits dans le Nouveau Testament, mais ce n'est pas ce mot-là que Jésus utilise. C'est un mot qui dit littéralement un petit chien, comme un chiot, un puppy. Avez-vous déjà vu la caractéristique numéro un d'un petit chien? Savez-vous c'est quoi? Tu peux le repousser 50 fois, puis il revient. Papa, papa, il revient. Il peut faire ça à la journée. Ma petite fille a un petit chien, puis c'est ça qu'il fait. Tu le repousses, il revient. Tu le repousses, il revient. Tu le repousses, il revient. Jésus est en train de l'élever et de montrer à ses disciples, regardez bien cette dame, parce que dans un instant, il va lui dire, femme, ta foi est grande. Femme, ta foi est grande. Il est en train de dire, tu vois, regardez-la bien, elle ne lâchera pas, elle n'abandonnera pas, elle ne sera pas limitée par ce que les gens ont dit autour d'elle, elle ne sera pas limitée par l'impossibilité. Et comme de fait, alors qu'il lui dit ça, il n'est pas bien de prendre le pain et de le donner au petit chien, elle a encore quelque chose à répondre. Encore une fois, combien d'entre vous connaissez une dame qui a encore quelque chose à répondre? Elle a toujours quelque chose à répondre. Et elle lui répond, elle dit, c'est vrai, Seigneur, mais elle dit, c'est vrai, et elle prend son analogie à lui, elle dit, c'est vrai, Seigneur, oui, Seigneur, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Et là, Jésus abdique, il dit, femme, ta foi est grande. Qu'il te soit fait comme tu veux. Et à l'instant, sa fille peut être guérie. J'aimerais expliquer pour toutes les dames de l'Église ce qui est arrivé à ce moment-là dans une analogie moderne que vous allez comprendre. À ce moment-là, le maître lui a remis une carte de crédit du ciel sans limite. J'ai pas dit votre mari, j'ai dit le maître. J'ai pas dit une carte chez Simons, j'ai dit une carte du ciel. Quelque chose qui me touche et m'émeut et me bouleverse dans le cœur de cette dame parce que c'est le mien et le nôtre depuis les débuts. Je sais que c'est celui de toutes sortes d'hommes de Dieu qui sont ici. Je vois Philippe, Pasteur Philippe, je vois Richard Toupin, je vois plein d'hommes de Dieu et de femmes de Dieu dans cette salle. Mathieu, pour la jeunesse du Québec. Quelque chose en nous qui brûle. Nous comprenons cette femme parce que nous avons ce même cœur en nous. Elle a dit, Seigneur, si eux autres n'en veulent pas, là, ce qu'ils ne veulent pas, donne-les à moi. Moi, je vais le prendre. Les autres, ils considèrent ça des miettes, ils le laissent sur la table, ils n'en veulent pas, ils peuvent vivre sans. Moi, je le veux, Seigneur. Seigneur, si eux veulent vivre des vies chrétiennes et de ministères limitées et sans impact et sans percée, se contenter de peu, Seigneur, ce que eux ne veulent pas, moi je le veux, notre Dieu. Et c'était comme ça que nous avons débuté cette église avec des larmes dans les yeux il y a 14 ans. Et j'aimerais vous dire, ce matin, 14 ans plus tard, notre cœur est intact. Nous respectons et honorons tous et célébrons tout ce que Dieu fait. Mais il y a quelque chose qui monte en nous et dit, Seigneur, si pour quelque raison que ce soit, ils ont mis des limites à ce que tu peux faire, ils se contentent de ce qu'ils ont, ce qu'ils ne veulent pas, donne-le-nous, Seigneur, nous voulons le prendre, nous ne serons pas, par la grâce de Dieu, limités par l'expérience des autres, nous allons nous emparer de tout ce que Dieu a pour nous, et si c'est votre cœur ce matin pour vous, vos enfants, votre famille, et l'Église du Seigneur de la francophonie, criez Amen dans ce lieu ce matin. Je refuse et résiste à une vie chrétienne limitée par l'expérience des autres et je suis renouvelé dans mon onction. Lorsque je refuse et résiste à une vie chrétienne qui est limitée par ce que je vois ou ce qui semble en attente. Dans Daniel chapitre 10, versets 11 à 13, nous lisons, « Puis il me dit, l'ange de l'Éternel, celui qui avait l'apparence du Fils de l'homme, lui dit, « Daniel, homme bien-aimé, sois attentif aux paroles que je vais te dire. Tiens-toi debout à la place où tu es, car je suis maintenant envoyé vers toi. » Et il me dit, « Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour, » voulez-vous dire à voix haute, « dès le premier jour, » car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues. C'est à cause de ces paroles que je viens et que je suis venu à ton secours. Mais le chef du royaume de Perse m'avait résisté pendant 21 jours, mais maintenant je viens. Et un autre est venu à mon secours. Il dit, maintenant c'est pour ça que moi je viens vers toi. Daniel a prié sincèrement et voici comment il nous enseigne à voir l'onction être renouvelée dans nos vies. Je vais être renouvelé dans mon onction lorsque je ne permettrai à personne autour de moi. Je ne limiterai pas mon expérience. Je refuse de laisser les expériences des autres limiter ce que Dieu a pour moi. Mais je refuse aussi de laisser ce que je vois humainement et ce qui semble en attente ou sans réponse limiter ce que je vais recevoir de Dieu. Daniel a prié passionnément. Si vous connaissez le contexte, c'est dans un contexte de captivité où l'ennemi, l'envahisseur, avait beaucoup dévoré. Et puis, il y a des ruines partout autour de lui. Quand vous lisez Daniel chapitre 9 et chapitre 10, vous voyez un homme qui passionnément cherche Dieu. Et sa prière, elle nous touche parce qu'il prie pour tout ce qui est mort autour de lui. Il lève sa voix, il jeûne, il prie, il dit, « Seigneur, je viens vers toi maintenant, puis je lève ma voix pour la maison, pour le temple, pour le nom de Dieu sur notre ville, la réputation de Dieu dans notre pays, pour ton sanctuaire, pour nos fils, pour nos filles, pour ta gloire, Seigneur. » Et il y a ce moment qui est intense, qui est vrai, qui est entier avec Dieu. Et dans son humanité, dans les faits humainement visibles, il n'y a rien qui semble changer. Il semble ne pas y avoir de réponse. Il semble ne pas y avoir de changement. Il semble ne pas y avoir d'exaucement. Certains commentateurs bibliques, et historiens de l'époque autour du même texte, prennent toutes sortes d'événements qui ont pris place au peuple au moment où ils sont persuadés que le texte a été écrit. Et lorsqu'ils font le collage de tout ce qui est arrivé, il y a plusieurs commentateurs bibliques, les chapitres suivants attestent à ceci, il y a plusieurs commentateurs bibliques qui disent non seulement Daniel s'est retrouvé à un endroit où alors qu'il a prié, ses yeux ne voyaient aucun changement et la situation ne semblait pas être répondue, l'exaucement ne semblait pas venir, la guérison, la restauration ne semblait pas avoir pris place. C'est comme si absolument rien qui se passe. Et s'il y a quoi que ce soit, il y a plusieurs événements qui semblent indiquer qu'alors qu'il a prié si passionnément, la situation a semblé empirer. Et certains d'entre vous ici, il n'y a personne qui va vivre avec Dieu à long terme et qui va s'accrocher pour être un combattant et être un disciple du Seigneur, qui ne verra pas, qui ne vivra pas ces moments où je prie de tout mon cœur, où je cherche Dieu, puis je perce, puis je touche Dieu, et je fais des pas pour lui. Puis certains d'entre vous, vous allez dire, j'ai fait des pas de sanctification, j'ai fait des pas de prière, j'ai fait des pas de foi, de générosité, j'ai fait des pas de foi, de pardon, j'ai fait des pas de foi, d'abandonner des affaires pour me lancer dans le ministère et répondre à l'appel de Dieu, j'ai mis des priorités dans ma vie pour honorer la maison de Dieu, ou pour ma famille, pour moi-même, pour suivre le Seigneur. Et alors que j'ai prié, que j'ai levé ma voix, c'est comme s'il ne se passait rien. C'est comme s'il ne se passait rien. Et c'est certains des moments qui le plus viennent attaquer l'onction, le flot, la vie de Dieu sur nos vies. Mais il y a un renouvellement de l'onction lorsque tu refuses de laisser ce que tu vois ou ne vois pas et refuse de laisser les attentes déterminer ta foi dans le Seigneur. Parce que l'ange de l'Éternel a dit quelque chose à Daniel, que si vous le recevez ce matin, va amener tout un réconfort et une force et un renouvellement à votre onction. Et je prie, Seigneur, dans ces minutes, que cette vérité que tellement on connue soit ramenée par la puissance de l'onction. C'est ce que tu as promis que l'onction ferait, alors fais-le maintenant, ces paroles si simples. Viens les rendre vivantes dans le cœur de plusieurs maintenant, je te prie, mon Dieu, je ne peux pas le faire par moi-même. Viens le rendre vivant, viens les rendre vivantes pour le renouvellement de son appel et le renouvellement de sa vie, de son mariage et de son cœur et de sa foi et de sa prière et de sa louange et de son don de lui-même pour toi, dans le nom de Jésus. L'ange de l'Éternel a dit à Daniel, puis il dit à chacun d'entre vous, « Daniel, ne crains pas, car dès le premier jour où tu as commencé à prier, moi je me suis mis à l'œuvre. » Dès le premier jour, ta prière a été répondue. Dès le premier jour, il y a des choses que ton œil ne voit pas, que l'œil humain ne peut pas voir. Et lui, il dit, il y a une période de temps où il y a eu un combat, puis il nous donne juste un glimpse, juste un aperçu du combat spirituel. Il dit, moi, je me suis mis à l'œuvre et j'ai été opposé, et j'ai été secouru, j'ai été soutenu. Puis il y a tout un combat. Daniel, lui, pense qu'il voit, il se passe rien. Mais à l'instant où sa voix a monté vers Dieu, il y a toute une dynamique de combat spirituel qui s'est mis en place, de Dieu qui s'est mis en place, des purposes, des plans et des desseins de Dieu qui se sont mis en branle. Et je veux déclarer prophétiquement ce matin qu'il n'y a pas une seule prière qui a été perdue. Et que lorsqu'il semble qu'il n'y a rien qui se passe, Dieu est en train d'agir pour préparer des choses dans l'invisible. La foi qui renouvelle est une foi qui ne voit pas. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas, nous dit Hébreux 11. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Il n'est pas possible d'obtenir un témoignage en Dieu sans avoir cette foi. Qui croit et qui se tient et qui combat et qui reçoit et qui a confiance pour ce qu'elle ne voit pas encore. Il n'y a pas de témoignage sans cette ténacité. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Mais non seulement croire que Dieu existe, mais croire qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. En d'autres mots, la foi qui est agréable à Dieu est une foi où je ne fais pas seulement croire qu'il existe, mais je crois qu'alors que j'ai prié dès le premier jour, que ça prenne 21 jours, 21 semaines, 21 mois ou les années même, lorsque j'ai prié, Dieu est le rémunérateur. J'ai confiance que lorsque je prie, Dieu agit et fait des choses que je ne vois pas pendant mon attente, pendant que mon œil ne voit rien. Il dit, c'est ainsi qu'Abraham, par la foi, lors de sa vocation, il est notre modèle, notre père de foi, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. La foi qui renouvelle notre onction, c'est une foi, une maturation de foi où j'arrive à une place où j'accepte que j'ai prié, j'ai cherché la face de Dieu. Mais je ne sais pas quelle est ma prochaine étape. Je ne sais pas comment Dieu va le faire. Je ne sais pas de quelle façon. Je n'ai pas d'indication de comment il va le faire. Ce que Dieu a mis sur mon cœur semble tellement inatteignable. Je peux essayer d'échafauder toutes sortes de ponts moi-même. Abraham marchait littéralement sans voir, mais le cœur renouvelé dans sa foi parce qu'il avait confiance que dès le premier jour où j'ai prié, Dieu est en train d'agir. Il est en train de préparer. Et ce qu'il prépare et la façon dont il va l'accomplir est infiniment mieux que n'importe quoi que moi je pourrais faire. Cette dimension de marcher sans voir. J'avais une discussion avec le pasteur Carter Conlin de New York la semaine dernière, je prêchais à New York. Il me partageait comment, j'étais d'accord avec lui, il me disait comment il ressentait avoir été récemment appelé, et je lui disais qu'on entrait dans un temps de jeûne et prière dans quelques jours, simplement appelé du Seigneur à prier pour une fraîche, un frais, il ne savait pas que je faisais une série sur l'onction, mais il dit une fraîche onction au niveau des dons spirituels, des dons spirituels authentiques. De comment est-ce que nous avons pu me partager des témoignages de dons spirituels, de paroles de prophétie, de paroles prophétiques, pendant la prédication, un à un, en parlant avec des gens, pas showmanship, pas fait en spectacle, mais fait de manière très, très simple parfois, mais très, très puissante pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Et on discutait ensemble et par la suite, en prière, je réfléchissais sur comment, qu'alors qu'en même temps, nous recherchons un déversement des dons spirituels, prophétiques, authentiques, il y a aussi en ce moment un avertissement que la véritable foi, c'est une foi qui ne voit pas. Voyez-vous, il y a un monde chrétien en ce moment, il y a il y a un déséquilibre au niveau d'un certain segment du prophétique où les gens vont faire toutes les distances du monde simplement pour aller se faire donner des paroles parce que les gens veulent savoir. Ils veulent que tu me dises qu'est-ce qui va m'arriver. Dis-moi qui je vais marier. Sont célibataires, dis-moi que je vais me marier. Si je suis en affaires, dis-moi que je vais prospérer. Dis-moi que je vais avoir un grand ministère. Les gens, savez-vous qu'aux États-Unis, en ce moment, allez-y pas, mais aux États-Unis, en ce moment, il y a des sites Internet où tu peux aller « dial a prophecy ». Où tu y vas, puis tu mets ta carte de crédit dedans, et c'est 3, 5 ou 10 $ de la minute, puis un parfait étranger au téléphone va te donner une prophétie au téléphone. Dans la prophétie, tu peux appeler un astronome, tu peux appeler quelqu'un qui va te dire la bonne aventure, ou tu peux appeler quelqu'un qui se dit un serviteur de Dieu qui va te donner une prophétie au téléphone. Et c'est des millions et millions et millions de dollars qui sont mis là-dedans parce que les gens sont désespérés, ils ont toutes sortes d'espions, il y a une mauvaise compréhension, on est à côté parce qu'ils ont une foi, il y a Dieu, mais il faut que quelqu'un me dise qu'est-ce qui va arriver, puis comment ça va se passer, puis comment les choses vont se faire. Puis je peux pas m'engager avant de savoir. Je voudrais vous déclarer que notre liberté et notre renouvellement d'onction, et notre confiance, et notre joie n'est pas dans le fait qu'on va savoir tous les détails et que j'ai le plan écrit 5 ans à l'avance, mais dans le fait que j'ai un Dieu fidèle qui m'entend dès le premier jour et qui va intervenir, bâtir et me diriger d'une manière parfaite. Quelqu'un devrait dire amen. Dites à la personne près de vous, t'as pas besoin de savoir, t'as juste besoin de croire. Dites ça à la personne près de vous. Cette dimension de la foi d'Abraham qui a cru en Dieu. Regarde bien comment est-ce qu'elle renouvelle. Comment est-ce qu'il y a un renouvellement à notre onction lorsque j'abdique, lorsque j'abandonne, lorsque je laisse être Dieu, puis moi je marche dans ce qu'il m'a donné. Abraham a cru, Romains 4 nous dit, il a cru en Dieu qui donne la vie à ce qui est mort, appelant à l'existence ce qui semble impossible, ne faiblissant pas envers la promesse de Dieu par incrédulité, mais Abraham a été littéralement fortifié dans sa foi, il a été renouvelé. Alors qu'il a donné gloire à Dieu, pleinement convaincu que ce que Dieu a promis, il a la puissance de l'accomplir. Cette dimension, pendant que les musiciens s'approchent et que j'arrive à la fin, cette dimension, cette semaine, je lisais les psaumes et je suis arrivé dans le psaume 5 et 6. Je ne sais pas si ça vous est arrivé que vous arrivez dans un psaume et vous avez le goût de vous stationner là parce que vous dites, c'est moi ça. Il parle mes paroles, je comprends ce cœur-là. Là. Dans le psaume 5 et 6, David est... Et à cette dualité dans sa prière qu'on a tous connue. Il était entouré d'ennemis, il y avait des gens qui lui faisaient du mal, toutes sortes de choses qui arrivaient, des paroles qui étaient dites, il y avait des méchants qui prospéraient autour de lui. Il y avait des choses qu'il priait depuis longtemps qui ne s'étaient pas accomplies. Et David ose dire ce qu'on pense souvent, « Seigneur, quand? Jusqu'à quand? Pendant combien de temps? C'est quand que le jugement va venir? C'est quand que la victoire va venir? C'est quand que ça va prendre place? » Puis il y a cette dualité où dans un même souffle, dans les deux, vous lirez à la maison, psaume 5 et 6, il va arriver et il va dire, Seigneur, j'ai confiance en toi pour des grandes choses. Puis après ça, il va dire, quand ça va arriver, Seigneur? Et toute cette dualité, mais il nous donne une clé, une attitude. C'est la même que celle de Daniel. C'est la même que celle de Daniel qui doit se tenir et dire, maintenant, je dois croire, j'y crois, j'ai confiance, que même si j'ai rien vu, dès le premier jour, j'ai été entendu et Dieu est en route pour l'accomplissement de la promesse. C'est le cœur de chaque homme ou femme de Dieu à travers l'histoire qui doit voir avec la foi, qui voit ce que l'œil humain ne peut pas voir. Et dans le psaume 5-6, il est renouvelé. Il y a une attitude qui renouvelle l'onction pendant les attentes. Il dit, jusqu'à quand, Éternel? Mes ennemis m'entourent et j'attends ton intervention. Mon âme est tremblante et chaque nuit je baigne mon oreiller de mes pleurs. Mes yeux sont usés de chagrin. Je sais que l'Éternel a entendu mes supplications, qu'il accueille mes prières. Je sais que les ennemis reculeront. Quelle dualité, il dit, Seigneur, mais j'en pleure tellement je voudrais te voir agir. Je ne sais pas quand est-ce que ça va arriver, mais en même temps, je déclare que parce que j'ai prié, Seigneur, j'ai confiance que les ennemis vont reculer. Il dit ces mots, il dit, prête l'oreille à mes paroles, Seigneur. Sois attentif à mon... Et voilà l'attitude qui renouvelle l'onction pendant les attentes. Sois attentif à mon cri d'appel. C'est toi que j'adresse ma prière. Éternel, tu entends ma voix. C'est à toi que j'adresse ma prière. Ce que vous devez faire, que moi, vous et moi, on fait, on s'arrête, on dit, Seigneur, maintenant, cette situation-là, là, c'est à toi que j'adonne. C'est à toi que j'adresse ma prière. C'est au Dieu de l'univers. C'est au Dieu tout-puissant. C'est au Dieu sans limite. C'est au Dieu toute-puissance. Plus grand que tous les ennemis. C'est lui maintenant qui s'occupe de ma situation. C'est à toi que j'ai adressé cette requête. C'est entre tes mains que je mets ma famille. C'est entre tes mains que je mets mon avenir. C'est entre tes mains que je mets cette situation, ce combat, mes ennemis, cette opposition. Seigneur, je l'ai remis maintenant entre tes mains. Je l'ai mis dans les mains du Dieu Tout-Puissant qui a fait une alliance avec moi et qui m'a appelé son bien-aimé. Alléluia. C'est à toi que j'ai maintenant donné cette situation. Éternel, entends ma voix. À chaque matin, je me présente à toi et je guette. Je vais à ta maison et je te donne l'adoration que tu mérites. Je me prosterne devant toi. C'est tellement magnifique parce que, et dans le chapitre 5, et dans le chapitre 6, et 7 et 8, Daniel n'a pas eu sa réponse encore. Il n'a pas eu le changement, il n'a pas eu encore l'intervention. Mais il dit, parce que j'ai présenté ma requête à Dieu, puis parce que je l'ai mis entre les mains du Tout-Puissant, je me lève le matin maintenant et je guette. C'est un sens, en anglais, dit expectation. C'est une vie chrétienne. Ça, c'est l'antithèse de l'esprit d'incrédulité qui est dans le cœur de tellement d'ouvriers se lèvent à chaque semaine, à chaque matin, puis ils pensent même pas que jamais rien pourra changer, qu'il y a rien maintenant qui peut arriver. Ils veulent juste faire leur temps jusqu'à la fin. Mais il y a quelque chose qui brûle dans le cœur d'hommes et de femmes qui sont renouvelés par l'onction. Des fois, les choses, les délais sont longs, mais j'ai confiance que j'ai remis ça dans les mains de Dieu, qu'ils vont intervenir et qu'il y a déjà des choses en marche parce que j'ai prié dès le premier jour et je me lève le matin et même si en ce moment, il n'y a rien dans l'humain qui semble prendre place, moi, je guette. Je suis dans l'attente. Je suis dans l'expectative que Dieu va faire quelque chose de grand dans ma journée aujourd'hui. Et je l'adore. Il vient au temple et t'aurais pu être debout à côté de David, et tout ce que tu l'aurais vu, je me mets dans ton sanctuaire, puis je me mets à te louer, je me mets à t'adorer. Tu aurais été debout à côté de lui, tu aurais dit, est-ce que ta situation a changé? As-tu eu ta réponse? As-tu eu ta guérison? As-tu eu ton accomplissement, ta prophétie? Il n'y avait rien qui avait changé dans les faits. Mais ma louange ne repose pas sur est-ce que j'ai eu ma réponse cette semaine. Ma louange repose sur le fait que mon Dieu est grand, il est fidèle, il est bon, je lui ai prié, il s'occupe de moi, il va accomplir ce qu'il m'a promis. Et là, il y a quelque chose qui arrive, c'est un secret. C'est un secret que je n'aurai pas le temps de développer, mais je vais simplement vous le lancer. Je ne vous chargerai pas aucun extra. Je vais simplement vous le lancer. Alors, tous ceux qui sont menacés, toujours le psaume 5, qui sont menacés par leur ennemi et qui trouvent un refuge en toi, trouveront une grande joie. Ils trouveront une joie. Ils sont renouvelés dans l'onction. Ils exulteront. Ils seront dans la joie. Ils vont avoir une attitude d'espoir, de célébration, à toujours, perpétuellement renouvelée. Ils trouveront une joie et une paix sans cesse renouvelées en toi, car toi, Éternel, tu bénis le juste comme un bouclier, et tu l'environnes de faveur. Laisse-moi vous donner un secret. Il y a des gens qui sont toujours en train tellement d'attendre quelque chose qu'ils pensent qu'il devrait venir et qui n'est pas venu encore. Ils ne sont pas capables aujourd'hui de se réjouir de ce que Dieu fait aujourd'hui même. Il y a une attitude ici extraordinaire de dire, moi j'attends pour des grandes choses de Dieu. Puis je suis en attente pour des grandes choses. Puis j'ai confiance que dès le premier jour où j'ai prié, il m'a répondu. Puis il va répondre, puis il fait des choses. Mais en attendant aujourd'hui, je me suis confié en lui et en chemin vers l'accomplissement de ces grandes choses-là, Dieu me comble de bénédictions aujourd'hui. Il me donne des faveurs aujourd'hui. Et les grandes choses que... Et là, je vais oser dire qu'après 20 quelques années de vie chrétienne, moi, j'ai plein de rêves pour le prochain 25 ans, le prochain 30 ans. Mais il y aura peut-être certaines des grandes choses que moi, j'ai pensées qui vont se réaliser ou non. Mais en attendant, je vis la bénédiction de Dieu à chaque jour, la faveur de Dieu à chaque jour. Ne manque pas ce que Dieu a pour toi aujourd'hui à cause de quelque chose que tu attends un jour dans l'avenir. Dieu veut te couvrir de sa faveur aujourd'hui. Aucune de tes prières n'a été oubliée, puis il est en œuvre pour accomplir la volonté de Dieu dans ta vie. C'est un grand amen. Je termine avec ceci. Il n'y a rien de plus beau. Il n'y a rien de plus puissant. Il n'y a rien de plus nocif, destructif pour l'enfer et de plus potent, de plus puissant dans le royaume de Dieu qu'un chrétien ou une chrétienne, simplement une photo de quelqu'un en prière qui va apparaître qu'on a pris au Burundi. Il n'y a rien de plus puissant juste que quelqu'un. Ça a l'air petit, il y a un enfant, un jeune homme, une jeune fille qui fait juste prier Dieu. Il fait confiance à Dieu, dit Seigneur, comme Daniel l'a fait. J'ai confiance maintenant que, alors que je prie, je refuse d'être limité par ce qu'il y a autour de moi, ce qui m'est arrivé. Puis je refuse d'être limité par ce que je vois. Je crois que je prie à un Dieu vivant et je mets ma confiance en toi. J'aimerais vous dire qu'il n'y a rien de plus puissant sur la terre. Un homme, une femme en prière au Burundi ou ici à l'Église Nouvelle Vie va changer des vies, changer des familles, va jeter des montagnes dans la mer et peut changer, transformer toutes choses. L'enfer est terrorisé par un homme et une femme qui va rester en prière devant Dieu. Et le ciel veut faire des choses extraordinaires à travers eux. Beaucoup de choses nous restent d'un voyage comme on a fait au Burundi. Une des choses qui reste inoubliable, qui ne nous quittera jamais, c'est de voir nos frères et nos sœurs africains prier. dans les pires conditions, de les voir chercher Dieu avec une confiance et une joie totale et de voir les psaumes s'accomplir, que la joie là, les remplit, la confiance, l'assurance. Il n'y a rien qui se passe devant mes yeux en ce moment. Leurs yeux sont sûrs, au-delà des circonstances, un Dieu grand et fidèle et extraordinaire. Lorsqu'on est arrivé là-bas, il y a la prochaine photo qui va apparaître, il y a un jeune homme qui est à côté de moi, la dernière de la matinée. Il s'appelait Jean-Baptiste et c'était notre interprète, celui qui a la chemise blanche. Moi, je suis en noir au milieu et lui, on a rencontré ce gars-là, il y a des personnes qui, après quelques minutes, il te fait mettre un sourire en visage juste de le connaître. C'était un gars qui avait une ébullition de joie, un gros rire. Tu avais un rire qui faisait trembler les montagnes. Et juste la joie, juste un sourire, puis juste une simplicité parfois. On est arrivé, puis ils l'ont choisi pour être traducteur. Et puis, je commence à jaser avec lui. Puis là, lorsque je l'ai vu, il avait ses sandales, il avait une paire de pantalons qu'il avait vu de meilleurs jours, puis il avait une chemise. Fait que je le prends à part un peu, puis je dis, t'as-tu d'autres vêtements? Parce que là, il va avoir une croisade, il y a 30 000 personnes, on va aller au bureau, au palais du président, tout ça. J'ai dit, t'as-tu d'autres vêtements? Grâce au... Il dit, oui. Il dit, j'ai d'autres vêtements. J'ai une autre paire de pantalons, puis une autre chemise. J'ai des souliers? Non, sandales. Alors, OK. Alors, le lendemain, on y avait acheté des affaires. Il est arrivé avec les souliers qu'on y a achetés, sa nouvelle chemise, sa nouvelle cravate. Il était content. Et là, il s'en allait traduire et tout ça. Puis c'était juste la joie. J'ai vu cet homme-là être utilisé de Dieu. La joie qui débordait de lui. Juste tout le temps, juste heureux d'être là et béni. La dernière journée du voyage, on avait passé 4-5 jours dans un hôtel. Puis la dernière journée du voyage, on vient de finir les croisades, tout ça, pour s'en venir préparer. Tous les bagages sont faits. Puis je descends d'en haut, puis je passe devant une chambre, puis je regarde. Avant de partir, il avait témoigné à tout le staff de l'hôtel. Il était dans une pièce. Il y avait 8 staffs de l'hôtel qui étaient à genoux par terre. Ils avaient parlé, ils avaient prêché l'Évangile. Ils étaient tous à genoux. Ben, il dit, Pasteur Claude, justement, il dit, viens les conduire en prière pour qu'ils acceptent le Seigneur. Tout le staff de l'hôtel, cuisinière, la fille du comptoir, sont tous à genoux en train de prier. Puis Jean-Baptiste m'invite à venir. Moi, je croyais qu'il faisait un très bon travail par lui-même. Il n'avait pas besoin de moi. Juste un gars rempli de Dieu, juste une joie extraordinaire. Puis il était drôle. Il avait de la joie. Il était nouveau marié. Il nous parlait tout le temps de sa femme. Ma femme, c'est la plus belle, etc. J'aime tellement lui faire plaisir. Puis à un moment donné, on va dans un marché. Il achète une espèce de grosse jambe de... C'était... It was a goat's leg. C'était une jambe de chèvre. Et puis c'était tout... c'est cru, ça, là. Et puis il achète des œufs, mais ça, là, oh! Il dit... il dit la jambe de chèvre, c'est ça. Elle aime tellement ça. Puis lorsque je vais arriver dans la maison, il dit, je vais être un roi lorsque je vais arriver avec ça. Avez-vous compris, mesdames, comment est-ce que certaines dames sont faciles à combler? Moi, je suis arrivé du Burundi avec une jambe de chèvre. Croyez-moi, j'ai pas eu la même réaction. Goat's leg. En chemin, il nous dit un peu plus tard, on était 3 jours plus tard. Ah! Oh! Il dit, où est-ce que ma jambe de chèvre? Il l'avait perdue. Il dit, j'étais où? Ben, il dit, je l'ai laissé dans un bagage. Alors, il y a quelqu'un qui est revenu à la maison puis qui avait une jambe de chef puis 6 œufs cassés dans ses bagages, là, quelque part. Juste un gars de joie, un gars qui avait une joie. Je connaissais pas son histoire, son témoignage. Jusqu'à temps qu'on aille dans une ville qu'on voit là qui s'appelle Gitega. Puis lorsqu'on est arrivé à Gitega, il me racontait son témoignage. Parce que Gitega, c'est un endroit, ils ont mis des monuments, comme vous voyez ici, partout dans le pays, après le génocide, pour dire plus jamais. Ce qui est arrivé ici, ça n'arrivera plus jamais, on ne permettra plus d'arriver. Et dans la ville de Gitega, il est arrivé ce moment, c'est arrivé partout dans le pays, mais à Gitega, il est arrivé le moment où l'instituteur, pendant le génocide, comme ça prenait place simultanément au Rwanda, où l'instituteur a dit, je vais vous demander à une des nationalités de se lever, j'aimerais vous demander de vous lever, tous les enfants, puis c'est une école primaire, connaissait très bien leur directeur. Et lorsqu'il a dit, je vais vous demander à toutes les, il a dit la nationalité de vous lever, tous les enfants sont levés innocemment, naïvement. Il a dit, OK, il y a 70 enfants qui sont levés, venez avec nous, on va prendre un autobus. Ils ont pris un car, un autobus, comme ils prenaient toutes les autres fois pour aller faire des activités. Ils étaient pensionnaires. Alors, les enfants, en gambadant, en souriant, en riant, sautent dans l'autobus. Ils les amènent dans une station d'essence. Ils les couvrent d'essence et ils les mettent en feu. 70 morts, enterrés là. On est debout devant le monument. Et lorsqu'on a été là, lorsqu'on a embarqué dans la voiture par la suite, j'ai vu que mon ami Jean-Baptiste, juste particulièrement touché, j'ai demandé son témoignage à lui. Lui a vécu exactement la même chose, excepté que son professeur d'école est un chrétien. Puis il s'est levé et il a dit, les enfants, il faut maintenant que vous quittiez parce qu'ils s'en viennent. Ils s'en viennent, sont à quelques kilomètres. Alors maintenant, vous allez partir. Il a mis différents 2 ou 3 sets de vêtements sur les enfants. Faut pas que vous ayez l'air d'être en fuite. Faut pas que vous ayez l'air. Il faut juste que tu te fondes parmi la foule puis sauve-toi, puis marche. À ce moment-là, Jean-Baptiste avait 10 ou 11 ans ou 10 ans. L'enfant, des milliers d'enfants qui avaient la même chose. Il s'en est dans le village. Certains de ses amis sont morts. Certains se sont fait prendre. Lui s'est retrouvé avec des groupes. et finalement s'est retrouvé dans un camp de réfugiés. C'est pas si ses parents sont vivants ou si sont morts. Qui est vivant, qui l'est pas. La majorité de sa famille ont été assassinés. Il a vécu pendant des années, entre l'âge de 10-11 ans jusqu'à 18-19 ans, dans un camp de réfugiés. Il avait entendu l'Évangile auparavant, puis il y a des pasteurs qui ont commencé à venir au camp de réfugiés, amenant un peu de nourriture et prêchant l'Évangile, puis s'est donné à Dieu. Faites confiance à Dieu. Il m'a raconté que tous les matins, il se levait, quand il avait 12, 13, 14, 15, 16, 17 ans. Il se levait le matin, il a commencé à s'activer, devenu un activiste dans le camp pour faire des choses humanitaires, puis aider les gens et tout ça. Puis lui a dit, « Seigneur, si tu veux que je sois ici, moi je vais te servir ici auprès des gens de mon peuple. » Il dit, il n'y avait pas de place pour prier, il n'y avait pas de place, j'avais aucun endroit pour être. Puis il dit, tout ce que j'avais trouvé, il dit, il y avait une immense pile. Il dit, il a mis ses bras dans les airs comme ça. Il dit, plus haut, il dit qu'un homme. Une immense pile, il dit, plus haut, au-dessus de mes mains, au-dessus. Immense pile de vidange, de déchets. Avec des chiens puis des qui couraient partout autour. Puis tous les matins, il allait se cacher en arrière de la pile de vidange. Comme si c'était son endroit seul. Puis il parlait à Dieu. Seigneur, j'ai un rêve, Seigneur, je te prie. Seigneur, j'aimerais un jour aller à l'école. J'aimerais un jour, Seigneur, faire des études pour être un pasteur. J'aimerais un jour, Seigneur, avoir une épouse. Puis j'aimerais un jour revenir dans mon pays et servir mon pays. Mais Seigneur, je te prie de t'entendre ma prière. Une prière complètement ridicule pour humainement. Comment est-ce que tu veux qu'un gars parte du tas de vidange puis aille faire des études bibliques? Il n'y a même pas d'argent pour s'acheter un morceau de pain. Il est là pendant des années. Il a seulement ses pantalons et sa chemise sur le dos. C'est juste ça qu'il possède. Puis des gens meurent autour de lui à chaque jour. Jour après jour, année après année. En termes de mon message de ce matin, il semble pour lui que rien ne change. Mais Dieu dit à Jean-Baptiste, il dit à Daniel, il dit à toi, dès le premier jour où tu as eu à cœur, je t'ai entendu, puis je vais venir à ton secours. Tu mets ta confiance en moi. Puis il dit, Pasteur Claude, c'est pas explicable, mais debout en arrière de la montagne de détritus puis de vidange, je sentais la présence de Dieu, puis j'avais la joie de Dieu, puis j'avais la confiance de Dieu. Puis un jour, un pasteur est venu, puis il m'a donné un petit Nouveau Testament à Kérounzi. Puis les promesses de Dieu me faisaient du bien et me fortifiaient. Et quelques années plus tard, un missionnaire est arrivé parmi tous ceux qui étaient sur le camp. Beaucoup d'entre eux qui violaient et faisaient tout. A pris à cœur Jean-Baptiste, a payé ses études pour qu'il puisse aller faire des études bibliques, a fait une maîtrise, est allé faire ses études au complet pour être pasteur, a rencontré une épouse et est maintenant de retour dans son pays pour servir le Seigneur, marchant à chaque jour dans l'accomplissement du rêve que Dieu lui avait donné. Et je veux vous dire ce matin, de Daniel à Jean-Baptiste sur le bord d'une pile de vidange, à vous où vous êtes aujourd'hui, il y a un Dieu qui entend vos prières. Et si vous êtes prêt à dire, je refuse de laisser l'attente et je refuse de laisser ce que je vois déterminer ce que je vais être, il va vous renouveler dans son onction. Et j'aimerais que vous terminiez en lui donnant toute l'acclamation de vos cœurs. Alléluia. 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 Est-ce qu'on peut se lever ensemble? J'aimerais inviter tout le monde, tous les serviteurs de Dieu qui sont dans ce lieu, pasteurs, leaders, tous les parents, toutes les familles, tous les papas, tous les grands-parents, tous les croyants. J'aimerais vous inviter dans un instant à sortir de vos places et à dire, Seigneur, je veux m'approcher pour faire une déclaration de foi solennelle ce matin. Je veux m'avancer pour dire, je refuse de laisser les limites qui m'ont entouré déterminer qui je vais être et ce que je vais accomplir. Et je refuse, Seigneur, de laisser les attentes, ce que je n'ai pas vu en ce moment, ce qui n'est pas encore accompli. Je refuse de laisser ça déterminer qui je vais être et ce que je vais accomplir. Mais par la grâce de Dieu, je veux m'avancer pour dire, Seigneur, remplis-moi, renouvelle-moi, j'ai confiance. Si ce message résonne dans votre cœur, sortez de vos places là où vous êtes. Des familles, des couples, des ministères, des pasteurs, des leaders. Il y en a que c'est pour une guérison, c'est une guérison que tu attends, c'est une direction que tu attends. C'est une réponse, c'est un exaucement, c'est une consolation, c'est une provision, c'est une multiplication. Et bien, tu viens ce matin et tu dis, je refuse, je méprise personne et je me compare à personne, mais je ne laisserai pas ce qui a été la norme devenir ma limite. Et par la grâce de Dieu, remplis-moi d'une foi, Seigneur, qui appelle à l'existence ce qui n'existait pas et qui appelle à la vie ce qui était mort. J'ai l'assurance ce matin que dès le premier jour où j'ai été entendu. Et je suis pleinement convaincu que ce que Dieu a promis, il a la puissance de l'accomplir dans ma vie, dans ma famille, dans mon ministère, dans mon pays. Seigneur, dans le nom de Jésus, me voici à tes pieds. Alléluia, alléluia, alléluia. Venez ce matin, pas tant dans ce lieu. Tendez vos mains vers lui. Et c'est me voici, Seigneur. Vous qui écoutez ce message par la radio, vous qui l'écoutez dans le truchement de l'Internet, là où vous êtes, vous ici ce matin.
Enseignement.com.
Enseignement.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseignement.com.
Parce que son peuple périt faute de connaissances.
Enseignement.
Toute la parole de Dieu sans compromis.
Toute la parole de Dieu sans compromis.